Bien, mesdames et messieurs, je suis absolument ravi de vous accueillir ce soir pour la conférence de mon collègue et ami Mehdi Guirgat à propos de sa dernière publication, l'ordre Al-Mohad 1120-1269, une nouvelle lecture anthropologique. Permettez-moi de dire deux mots. D'abord, ma joie de vous accueillir si nombreux. La salle est pleine. Je suis ravi pour Mehdi. Et puis, je suis très heureux de dialoguer avec lui ce soir à propos d'un livre d'histoire, attendu que l'histoire nous permet de comprendre le présent et peut-être de faire en sorte que les personnes de bonne volonté évitent de commettre l'irréparable et les bêtises qui ensanglantent nos peuples. Donc je suis absolument ravi de discuter dans un premier temps, jusqu'aux alentours de 19h, avec Mehdi Guirgat, et puis ensuite nous vous donnerons la parole pour que vous puissiez lui poser les questions, intervenir, réagir à ses propos, non pas aux miens, mais à ses propos. Mehdi Guirgat a soutenu sa thèse il y a peu de temps, en 2011.
C'est ça.
Je crois, si j'ai bien compris, que le livre qu'il va vous présenter ce soir n'est pas sa thèse, mais c'est une thèse enrichie. C'est un ouvrage en lui-même, mais vous avez repris, Mehdi, votre travail de thèse et vous l'avez approfondi.
C'est bien cela.
Ce travail est consacré à une période de l'histoire de l'islam musulman médiéval, de l'Occident musulman médiéval, une période qui, pour un néophyte comme moi, interroge. Pendant fort longtemps, les érudits, les historiens du protectorat, de la France coloniale, ont consacré beaucoup d'attention aux Almohades. Alors, quelle signification donnez-vous aux mois, aux années que vous avez consacrées à l'étude de cette période qui, si vous m'accordez une formule un peu rapide, pose problème? Elle peut déranger.
Tout à fait. Alors, en premier lieu, permettez-moi de vous remercier d'être venu si nombreux. Et sachez que votre présence me fait chaud au cœur. Et merci tout particulièrement à Jean-Michel pour cette présentation qui, je crois, constitue une bonne mise en bouche de ce qu'est ce livre, c'est-à-dire qu'il pose problème. Effectivement, il part d'un postulat de départ. En vérité, je m'inscris tout à la fois dans la continuité et la rupture de cette historiographie coloniale. En rupture, pourquoi ? Tout simplement, qu'est-ce qui a prévalu à l'envie d'écrire cette thèse, et ensuite que j'ai transformée, je crois, d'une façon substantielle en livre, c'est l'idée que je crois que personne avant n'avait vraiment pris la mesure, voire même identifié, un problème majeur. À savoir qu'il n'existe pas, à mon sens, d'État digne de ce nom au Maghreb, avant le XIIe siècle. Et qu'en vérité, le Maghreb constitue un cas, je crois, assez exemplaire et tout du moins, je crois, digne d'intérêt, parce qu'on passe dans un laps de temps très bref de sociétés relativement acéphales, dépourvues d'État, et j'espère que dans notre discussion, j'aurai l'occasion de développer cette thématique, à savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par État et comment, en vérité, on passe de structures de pouvoir plutôt horizontal, au ressort de pouvoir plutôt égalitaire, à un État pyramidal avec un souverain hiératique, sacré. Et donc c'est cette vision des choses. Le fait que ce n'avait pas été identifié, ou tout du moins quand c'était identifié, si vous voulez, cela apparaissait sur la marge. Alors qu'à mon sens, je crois que cette problématique mérite d'être au centre, vraiment, de toutes les attentions. En effet, je crois qu'un certain nombre de raisons ont prévalu au fait qu'on n'en a pas tiré toutes les conséquences. Tout d'abord, le fait que l'on voit trop souvent, je crois, cette histoire, depuis Al-Andalus jusqu'au Maghreb. C'est-à-dire qu'on adopte un regard, ou si vous voulez, le Maghreb n'apparaît qu'en périphérie du raisonnement. Il n'est pas, si vous voulez, situé au centre. Si vous voulez, je crois que ça, c'est pour l'histoire, très succinctement, c'est le cas pour l'histoire de langue française et espagnole.
Si vous me permettez, oui. Mehdi, si vous me permettez, pour le néophyte que je suis, la question de l'Occident musulman, cette question n'est pas évidente, parce que je crois savoir que le prophète s'est intéressé dans un premier temps au patriarche d'Alexandrie, au Shah de Perse, au Négus d'Éthiopie, au César byzantin, mais du point de vue d'un islam originaire, le Maghreb, c'est non seulement l'Occident, mais l'étymologie éveille notre attention. C'est à la fois l'Occident, mais en même temps une contrée un peu bizarre, un peu étrange. C'est vraiment une périphérie du point de vue de l'islam originaire. Je me trompe ?
Non, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que, originellement, dans une période comprise depuis la genèse de l'islam jusqu'à cette période du début du XIIe siècle, le Maghreb constitue une périphérie de l'islam. Et pour tout dire, une entité marginale, pour ne pas dire marginalisée. Il faut entendre par là le fait que le Maghreb et ses habitants, les Berbères, n'étaient pas connus des peuples qui habitaient l'Arabie. Et donc n'étaient pas non plus connus du prophète de l'islam et de ses compagnons. C'est-à-dire, et cela pose problème. C'est-à-dire, autant l'Égypte, la Syrie, la Mésopotamie et dans une certaine mesure l'Éthiopie faisaient partie de cet horizon premier de l'islam, mais pas le Maghreb. Et je crois que cela a posé un problème, et un problème tout à fait redoutable pour ses habitants, surtout dans un temps au début du XIIe siècle, où ils ont cherché à se recentrer et à réécrire l'histoire. Et à donc à inscrire leur peuple dans une lignée prophétique, du peuple élu. Le peuple élu étant alors considéré comme les Arabes, d'une façon générale. Et à partir de l'exploitation, de l'instrumentalisation d'une tradition prophétique, le hadith, eh bien on passe d'un sens obscur, ésotérique, celui du peuple des Rorabas, qu'à partir de ce moment-là, le fondateur, l'initiateur du mouvement Al-Mu'ad, transforme en Al-Ghurb, c'est-à-dire les habitants de l'Occident, dont la mission est de conduire l'ensemble des musulmans sur les voies du salut. Et donc, dans une certaine mesure, de prendre la suite, la relève des Arabes, entendu par là que la mission des Arabes est désormais achevée et qu'il appartient à un autre peuple, un peuple nouveau, un peuple émergent dans la grande histoire de l'islam, de succéder à ses illustres prédécesseurs que sont les Arabes.
Et alors, si je ne me trompe pas, les Almohades ne sont pas les premiers. Il y a les Almoravides. Et l'on peut se demander si les Almohades sont en rupture ou en continuité avec l'effort de leurs prédécesseurs, les Almoravides. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense qu'il faut aller au-delà des thématiques et, pour tout dire, des marottes des historiens, à savoir penser l'histoire en termes de rupture et de continuité. Car, bien entendu, les Almohades se sont inscrits tout à la fois dans la continuité et la rupture avec leurs prédécesseurs. Dans la continuité, dans la mesure où les Almoravides, dans un second temps, c'est-à-dire vers la fin du XIe et début du XIIe siècle, eh bien, ont été les premiers à avoir cherché à étatiser ces sociétés, notamment à partir d'un certain nombre d'éléments concrets. Par exemple, en commençant à créer des villes dignes de ce nom, des villes qui, pour la première fois dans cette contrée, rejoignent les normes que l'on pouvait identifier dans le reste du monde musulman, à savoir des villes avec des remparts bien différenciés, se distinguant bien de son interlande, et n'étant pas l'émanation de tribus, mais bien l'émanation d'un pouvoir central qui visait à récolter l'impôt, inscrire dans la ville une mosquée au centre de la trame urbaine, avec une mosquée monumentale, ce qu'on appelait du temps de l'époque coloniale une mosquée cathédrale, avec de même un palais du gouverneur, avec dans ce palais du gouverneur une milice, souvent étrangère au pays, d'ailleurs très souvent d'origine chrétienne, dont le but était de, si vous voulez, de récolter l'impôt. Et à partir de ce moment-là, se met en place et dans un processus d'étatisation. Et ceci pour la toute première fois. Donc je pense que c'est pour cela qu'on peut dire que dans une certaine mesure, les Almohades s'inscrivent dans la continuité. Maintenant, rupture, et je pense que l'historiographie actuelle est plutôt encline à voir les Almohades comme une révolution, et le Mehdi Mtoumert, c'est-à-dire le fondateur du mouvement, comme un révolutionnaire. Vous me passerez l'anachronisme, mais il est clair que les Almohades se sont voulus comme un peuple élu, le nouveau peuple élu, avec une langue à laquelle elle puisse s'identifier. Et en ce sens, grâce à une nouvelle langue et à ce statut nouveau de peuple élu, ils ont voulu, en se donnant d'ailleurs le titre de calife, hein, pour la première fois dans l'Occident musulman, vous avez un peuple autochtone qui se donne le titre de calife, ils ont voulu se distinguer et se démarquer radicalement de tous les autres pouvoirs musulmans. Autant les pouvoirs orientaux, c'est-à-dire pour l'essentiel le calife abbasside de Bagdad, mais également des pouvoirs d'Al-Andalus, en créant une forme d'indépendance totale et en étant auto-référencés à eux-mêmes, en créant leur propre pèlerinage, leur propre hajj, à Tinmel, c'est-à-dire en plein haut Atlas occidental, et en ne reconnaissant aucune prééminence au lieu saint de l'islam, ceux du Hijaz. C'est en ce sens, je pense, que cette expérience-là est tout à fait singulière et, à mon sens, digne d'intérêt, car elle constitue la première, et je crois, la dernière tentative d'indépendance totale d'une entité maghrébine autoréférencée à elle-même.
En vous lisant, j'ai eu l'impression que les Almohades avaient jeté les bases d'un État, alors que les Almoravides restaient encore dans une démarche lignagière dans l'ensemble. Le califat me paraît être un élément décisif dans la mesure où le souverain n'est plus le premier parmi les pairs, mais il apparaît, je dirais, dans une invisibilité quotidienne. Il est dans son palais, il est au moment de la prière séparé des autres fidèles, il est au-dessus.
Tout à fait. Alors, certes, je pense que les Almoravides ont initié un véritable processus d'étatisation. Néanmoins, les Almoravides, je pense, constituaient une élite politico-militaire qui assurait la domination sur un pays. Mais néanmoins, cette élite-là, celle des gouvernants bien différenciés des gouvernés, des sujets, étaient plutôt indifférenciés les unes les autres. C'est-à-dire qu'elles avaient toutes le même habit, l'ithem, le voile recouvrant l'ensemble du visage et du corps, à l'image un petit peu des Touaregs actuels, avec cependant un souverain qui ne se distinguait pas vraiment de ses congénères, de ses cousins. Alors qu'à l'époque almohade, vous avez un souverain qui désormais a des ambitions de se présenter comme un monarque sacré, hiératique, bien différencié. Un certain nombre, je crois, de critères n'ont pas été pris en considération pour bien marquer cette nouveauté. Par exemple, le fait que désormais le calife ne participe plus au banquet collectif. Naguère, dans l'état de société sans état, le banquet jouait un rôle tout à fait important, essentiel, dans le cadre de la vie collective. Désormais, vous avez un calife qui apparaît comme un deus ex machina, c'est-à-dire un souverain nourricier qui, certes, assure la pitance à ses sujets et aux autres almohades, mais n'apparaît jamais dans les banquets. C'est-à-dire qu'il est capable de fournir des plats tout à fait extraordinaires, hein, au sens premier du terme, avec, je crois que ça a été là, une des originalités de ma démarche, c'est-à-dire prendre en compte, par exemple, l'élément culinaire, celle des recettes, pour bien marquer que vous avez là un début d'étatisation et de distinction totale entre la classe des gouvernants et la masse des gouvernés. Notamment, Donc, avec ce retrait des banquets, ce retrait des repas collectifs, je crois qu'on a, on a un indice, et un indice certain, d'une forme de sacralisation du pouvoir et du monarque. De même, on constate que le pouvoir au Maghreb, d'une façon générale, durant toute cette période médiévale, je crois, a oscillé entre une forme nouvelle de pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir sacralisé, à l'image de ce qui avait prévalu lors de l'expérience abbasside, c'est-à-dire une expérience orientale qui ensuite a migré d'est en ouest vers l'Andalous à la cour des califes omeyyades, avec un calife qui ne se montrait pratiquement jamais à ces sujets, y compris lors de la prière collective du vendredi, et si je puis dire, l'état premier du Maghreb, où vous aviez uniquement des chefs de guerre qui, pour continuer à assurer une certaine forme de suprématie, étaient obligés de chevaucher et de combattre sans cesse, si vous voulez, pour continuer à régner.
Vous utilisez l'expression latine pour désigner ce comportement de primus inter pares.
Absolument. C'est-à-dire qu'il n'a son pouvoir que du fait qu'il est le premier des guerriers et qu'il est lui-même mis en demeure d'être un cavalier et un chevalier hors pair. C'est-à-dire le premier à manier le sabre et à être victorieux sur le terrain de bataille. Bien entendu, ce pouvoir-là ne peut, dépasser l'écueil de la défaite, de la déroute. Car de la déroute découle automatiquement soit la mort, parce qu'il est lui-même engagé sur le champ de bataille, soit le fait qu'il perd toute légitimité désormais à régner.
Alors, ce qui me frappe, et je prends le risque de dire une incongruité, c'est que dans l'effort des Almohades, tel que je le perçois, il y a une volonté eschatologique. Dans la mesure où il s'agit, à travers de la construction d'un État et la mise en place d'un réseau de gouvernement des hommes, il s'agit d'esquisser ce que pourrait être le paradis, en quelque sorte, de l'instaurer ou d'en instaurer une ébauche immédiatement sur Terre. Et il me semble que cet effort de créer, en quelque sorte, de fonder la cité de Dieu qui serait la préfiguration du royaume de Dieu, cet effort s'accompagne d'un mouvement qui me paraît ambivalent. À bien des égards, j'ai l'impression que le modèle vient de l'Orient, mais la mise en œuvre de ce modèle suppose d'effacer la référence à l'Orient et de peut-être surpasser le modèle et la référence. Il me semble, en vous lisant, que les califes les plus importants de cette dynastie avaient en permanence à l'esprit ce qu'avaient été les Omeyyades, ce qu'avaient été les Fatimides, les Abbassides, vous l'avez dit, et que le souci était de s'inspirer de ces trois grands califats, mais d'aller au-delà.
Tout à fait. Je pense que l'idée que les Almohades constituent un réceptacle des expériences du passé, des expériences de pouvoir du passé, est tout à fait primordiale. C'est-à-dire que tout à la fois, ils constituent le réceptacle des expériences les plus brillantes de l'islam, à savoir au moins les trois cours califales, celles de Bagdad, du Caire et de Cordoue, mais en même temps, ils en constituent un dépassement. Ce dépassement, je pense, il passe au moins par deux étapes essentielles. Celle tout d'abord de l'acclimatation d'un modèle exogène, d'un modèle étranger. Cette acclimatation, je crois qu'il passe déjà par le passage par la langue berbère. Certes, donc la langue autochtone par excellence. Certes, l'idée de créer un Éden terrestre, un paradis ici et maintenant, en créant des jardins extraordinaires, avec des pavillons, des jardins donc avec des essences odoriférantes extraordinaires comme les citronniers et les orangers par exemple, qui sont alors d'importation récente et qui sont en vérité originaires de Perse et au-delà de l'Inde, eh bien, je crois... cet effort d'acclimatation, il passe par le fait de donner un nom berbère. Par exemple, je crois qu'on a insuffisamment pris la mesure du fait que Marrakech, donc la première des capitales almoravides et par la suite almohades, eh bien l'étymologie en berbère, elle est assez claire. En fait, cela vient de Amour Niakosh, c'est-à-dire Ardullah, c'est-à-dire la terre de Dieu. La terre de Dieu ici-bas. Pourquoi ? parce que on prend généralement, et je crois que c'est pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, si on s'intéresse à l'histoire de Versailles, je crois que c'est à peu près le même processus, le même phénomène. Vous avez une terre désertique qui est tout sauf propice à l'établissement et la création ex nihilo d'une ville, d'une capitale impériale. Et ensuite, par ingénierie, par prouesse technologique, vous créez de toutes pièces une ville aux dimensions remarquables, avec des jardins, de l'eau courante, et une ville enserrée d'une ceinture verte composée de jardins absolument extraordinaires, notamment avec des surfaces d'eau, des étangs d'eau, suffisamment large, par exemple, pour permettre une forme de navigation et toute chose absolument impossible et extraordinaire, surtout si on prend en compte le fait que quelques décennies auparavant, vous aviez là un désert où, comme le disent les géographes arabes, les oiseaux, quand ils survolaient cet espace-là, mouraient de soif et tombaient d'inanition.
Je vous en prie. Vous avez évoqué quelque chose qui est, je crois, déterminant, c'est que cet État, cette dynastie, va être bilingue. Il y a l'utilisation systématique du berbère et en même temps l'arabe qui, de fait, si je vous ai bien compris, a le statut de langue du sacré.
C'est, je crois, vous mettez là le doigt sur un point à la fois polémique et tout à fait crucial. Car, et c'est là toute l'ambiguïté de cette expérience almohade, c'est que tout en donnant le statut de langue du sacré, de langue de référence aux berbères, notamment en lui donnant un support écrit, ne serait-ce que parce que pour que le credo, il n'y ait pas de déviance dans le credo, lequel était énoncé en berbère, de même que l'appel à la prière, d'un bout à l'autre de l'Empire, c'est-à-dire de Castellón en Espagne jusqu'à Barca en Tripolitaine, l'appel à la prière se faisait en berbère. De même que l'apprentissage du tawhid, c'est-à-dire du credo. Mais en même temps, les Almohades, plus que jamais dans l'histoire du Maghreb, ont œuvré dans le sens d'une arabisation et d'une arabisation profonde de ces sociétés. Tout d'abord, ils ont créé à Marrakech une école, l'équivalent, vous passerez l'anachronisme, de l'ENA, de l'École nationale d'administration, en créant une structure qui a drainé à elle le nec plus ultra des intellectuels de l'Occident musulman, et en premier lieu des personnalités originaires d'Al-Andalus. On en connaît, je crois, quelques-unes, comme Ibn Tawfel ou le propre Averroès, qui tous ont exercé leur talent dans cette école, où ils formaient une élite qui recevait une instruction tout à la fois en arabe, c'est-à-dire essentiellement l'apprentissage du Coran, des sciences religieuses, mais aussi de toutes les autres sciences arabes, celles qui ont, si vous voulez, qui découlent directement, qui ont été empruntées au creuset abbasside, celles qui ont été formées dans la grande culture, avec un grand C, arabe, des 9e, 10e siècle. De même, en nommant dans toutes les villes de l'Empire des gouverneurs, avec leurs aides, les fonctionnaires, ils ont répondu comme jamais, je crois, la langue arabe. On peut prendre un certain nombre d'indices qui indiquent de façon claire que le niveau d'arabe a progressé au cours de cette période au Maghreb. C'est-à-dire que, par exemple, au début de cette période, on notait comme tout à fait exceptionnel la capacité d'un certain nombre de populations au Maghreb à entendre l'arabe. Au XIIIe siècle, je crois que même au fin fond du Haut Atlas, on a un certain nombre de récits de voyages qui sont éloquents sur ce point, eh bien, vous trouvez des personnalités qui maîtrisent parfaitement la grande culture arabe avec un grand C, celle que j'évoquais tout à l'heure, notamment des personnes qui sont capables d'énoncer les vers de la poésie anti-islamique, Mu'allaqat, qui sont pourtant des roitelets berbères qui sont installés au fin fond du sud du Maroc actuel.
Alors, vous abordez quelque chose qui m'a passionné, c'est la tension que j'ai cru discerner entre l'Occident musulman et l'Orient, entre le berbère et l'arabe, mais aussi, je dirais, avec une tension avec le mythe, le mythe du fondateur, du guide, et puis le calife, le souverain. Il y a, me semble-t-il, un travail évident entre ce qui relève du mythique et ce qui relève du politique. Lequel politique a le souci de s'entourer, là aussi vous allez sans doute m'accorder un anachronisme, un corps de fonctionnaires. Ce corps de fonctionnaires, c'est une élite intellectuelle, ce n'est pas une élite guerrière. L'armée, le corps militaire, on va le composer avec des mercenaires. Il y aura des chrétiens, pas seulement des chrétiens. On va faire venir des Arabes aussi, des étrangers. Il y aura donc une organisation étatique très réaliste et qui va faire bon ménage avec le mythique.
J'ai envie de dire bon ménage jusqu'à un certain point. Car en vérité, je crois que l'État almohade s'est toujours constitué et construit dans la tension. La tension sur un point. C'est-à-dire qu'il découle d'un double mouvement. Un mouvement au ressort eschatologique, c'est-à-dire, comme je l'ai signalé tout à l'heure, qui avait pour vocation de sauver les musulmans dans une optique, dans l'optique de la préparation du jour du jugement dernier. Bien, entendez par là que le jour du jugement dernier était proche, mais également une logique royale et dynastique. Je crois que c'est ça qui a prévalu à cette expérience politique. Alors, vous remarquerez que de cette double filiation, à la fois eschatologique, profondément d'essence religieuse, et l'autre d'essence plutôt royale et dynastique, découlent deux sortes de personnalités, deux sortes de personnes aux natures et aux fonctions, à vrai dire, assez différentes. Vous avez d'un côté le calife, ses enfants et ceux qui les entourent, ceux qui complètent ce centre incarné par le calife, que sont, comme vous l'avez évoqué, les mercenaires, les fonctionnaires, lesquels sont avant tout ses serviteurs, ceux qui assurent, si vous voulez, le bon fonctionnement de l'État. De l'autre côté, vous trouvez les descendants des compagnons premiers du fondateur du mouvement, c'est-à-dire Ibn Tumert, qu'on appelle les Cheikhs, Cheikh al-Muhiddin, c'est-à-dire les Cheikhs al-Muhad, qui avaient pour légitimité première le fait que soit ils avaient entouré, soit ils avaient un ancêtre qui avait entouré et, si vous voulez, assuré le fondateur du mouvement, l'avait assuré de délivrer un message dans les meilleures conditions possibles. Et en vérité, c'est cette tension au sein même de l'État qui a fini par faire imploser le système à partir des années 1220. Donc, je crois que ce double pouvoir, à la nature à la fois religieuse et politique, et profondément politique, je crois, n'a fait bon ménage que dans un certain laps de temps, et qu'il a fini, comme je viens de l'évoquer, par imploser.
Alors, nous sommes, vous et moi, contraints à émettre des hypothèses. Ces tensions qui débouchent sur des contradictions, puis sur une implosion, est-ce que ces tensions n'ont pas résulté d'une organisation étatique qui était, si vous m'accordez ce raccourci, en avance sur son temps? Cet effort de construction d'un État, vous soulignez brillamment dans votre livre, qui a réussi l'unification de tout l'Occident musulman, de part et d'autre du détroit de Gibraltar, l'Occident musulman est unifié, l'État s'affirme, mais c'est peut-être trop tôt.
Je ne sais pas si cette expérience-là a été trop précoce. Vous savez tous que nous avons en tête, les historiens, on a nos classiques, comme Kantorowicz, vous savez, sur sa théorie bien connue du double corps du roi, c'est-à-dire un corps matériel et un corps immatériel. Le roi est mort, vive le roi. Donc, bien entendu, je me suis posé la question de savoir si cette hypothèse était valable pour le Maghreb. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait au Maghreb un roi, un souverain, mais également un corps étatique au sens auquel Kantorowicz l'entendait, c'est-à-dire un corps d'État qui puisse survivre à la mort du monarque. Et je pense que l'expérience almohade, dans ce sens, est tout à fait remarquable, car je crois vraiment que là, pour la première fois, nous avons une expérience d'État qui ne soit pas uniquement centrée sur la personne du monarque, et c'est, je crois, le moment ou jamais de citer ce corps tout à la fois de fonctionnaires, de clercs et de doctes, que sont les talabas, qui ont assuré en vérité la continuité de l'État, bon gré mal gré, en dépit de toutes les adversités et des revers militaires. Ils ont assuré la continuité de l'État en incarnant, eux, l'État, c'est-à-dire une façon spécifique de penser les problèmes et les rapports à la population, en se basant donc déjà en ayant une éducation bien spécifique, celle que l'on dispensait alors dans l'école de Marrakech, mais également leur langage spécifique, de même qu'un habit qui les différenciait et qui les distinguait totalement du reste de la population. Donc un corps de fonctionnaires complètement différenciés des sujets et des gouvernés d'une façon générale. Et je crois que c'est en cela que l'on peut dire que l'expérience almohade est tout à fait novatrice, car en vérité, je crois qu'elle préfigure les expériences étatiques modernes, européennes, celles que nous verrons apparaître à partir des 15e, 16e siècles.
J'ai envie de vous demander de décrire le fonctionnement de cet État almohade. Vous l'avez évoqué déjà lorsque vous avez parlé des recettes, de l'alimentation du calife, du souci qu'il a à ne pas participer au banquet. Mais il me semble que ce souci à la fois de représentation de celui qui incarne le pouvoir, mais cette représentation suppose une invisibilité au quotidien. Il y a un mouvement ambivalent là, retrait du monde, au-dessus des autres, et en même temps, souci du spectacle du pouvoir. Bon, il me semble, si vous m'accordez un anachronisme, il me semble que ce mode de fonctionnement a suscité des tensions au sein de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la société civile. Je pense notamment au sein. Et dans votre livre, vous inspirez notamment de l'école des Annales, donc vous avez le souci de relever des faits que les historiens davantage attachés à la conception de l'histoire-bataille méprisent parfois. Donc, pour vous, les questions culinaires ne sont pas secondaires, elles sont source d'une information de première main. Vous montrez que, à bien des égards, le rapport à la nourriture, le rapport à la cuisine du calife pose problème et est source de tensions et de conflits, notamment avec les saints.
Tout à fait, car de ce que l'on peut identifier comme problème dans les corpus hagiographiques, vous savez, les corpus hagiographiques sont d'un très grand intérêt. Pourquoi ? Car la vie des saints laisse entrevoir ce qu'était la perception des gouvernés, des sujets, ceux qui subissaient le pouvoir. Or, il apparaît que ces sujets-là percevaient l'État essentiellement comme une instance oppressive, répressive. Répressive tout d'abord parce que, pour la première fois, vous avez des sociétés qui acquittent l'impôt. Et comme l'a bien montré Pierre Bourdieu en son temps sur la genèse de l'administration en France, quand vous avez des populations qui ne sont pas habituées à acquitter l'impôt et qui le font pour la première fois, cela est souvent perçu comme un viol. Pur et simple. En son temps, Boris Parchniev avait bien montré que les révolutions, les révoltes populaires au XVIIe siècle en France, si vous voulez, résultaient de cette problématique, à savoir acquitter l'impôt. Donc, ça ne se fait jamais de bonne grâce.
La tête de Turc, si vous me permettez, bon, d'employer une expression figée, évidemment, c'est le fermier général.
Tout à fait, le gabelou.
Hein. Ah oui, absolument. C'est vraiment...
Donc, et dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous disent les sources, et notamment les quelques phrases en berbère qui nous sont parvenues des sources d'époque almohade, c'est que bien souvent, le pouvoir est vécu avec comme un... disent les sources, un hadis. Hadis, donc en berbère, ça signifie le ventre, hein, le kersh. Bien. Donc, si vous voulez, pourquoi cette image du ventre et du ventre dévorant ? Car vous avez du point de vue des sujets, un souverain et ses gens qui s'engraissent sur le dos du peuple, qui sont vécus comme des gens. Et donc j'ai essayé dans mon livre, j'ai établi un certain nombre de tableaux avec des comparaisons cuisine du peuple, cuisine royale, notamment...
Cuisine des saints.
Et cuisine des saints. Mais la cuisine des saints, je crois, reprend un certain nombre des thématiques des cuisines populaires. Notamment le fait que vous avez une cuisine plutôt monotone du côté du peuple, avec une absence ou une carence en alimentation carnée, alors que bien entendu, la cuisine royale est variée, épicée, et épicée jusqu'à l'excès. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas l'estomac pour manger une quinzaine de viandes différentes, agrémentées de curcuma, de carvi, de cumin et de poivre en très très grande quantité. Bien. De même, vous avez une cuisine, j'ai dit qui varie et qui vous met à l'abri des disettes périodiques qui frappaient la population. Donc quand vous étiez un fonctionnaire ou attaché à l'État, vous étiez assuré de passer, si vous voulez, à travers ces périodes de crise qui frappaient périodiquement la population. Donc tout un ensemble de faisceaux qui font que les dirigeants étaient perçus donc comme des oppresseurs, comme ceux en quelque sorte qui affamaient la population.
Il m'a semblé, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne fait pas défaut, il m'a semblé que le fonctionnement de l'État almohade vise, par exemple, à non pas honorer l'étranger en l'accueillant à la table de l'État, à la table du calife, mais à l'intégrer. Hein, il s'agit, c'est un signe, vous avez cité Bourdieu, c'est un signe de distinction. Manger la cuisine royale, ça veut dire qu'on appartient.
Alors, je pense qu'il faut replacer ça dans un contexte plus général, si vous voulez, où le don et le contre-don jouent un rôle tout à fait essentiel dans ces sociétés. C'est-à-dire que du moment où vous acceptiez un don, de quelque nature qu'il soit, autant vestimentaire, numéraire, mais surtout, quand vous acceptiez de prendre repas à la table du calife, ou d'un des princes almohades ou d'un des fonctionnaires, cela vous engageait, et vous engageait, si je puis dire, à vie, à le servir, et du point de vue des saints, qui constituait une des oppositions au pouvoir almohade, et même au-delà, telle était la perception des sujets, des gouvernés, du moment où vous acceptiez ce don de nourriture, eh bien vous étiez perçu comme un être engagé, corps et âme, du côté de l'État, et donc, dans une certaine mesure, du côté de l'oppression. C'était bien ainsi que c'était perçu. Notamment, nous avons un certain nombre de cas d'espèce, hein, de lois émises par des juristes musulmans, qui indiquent avec clarté que du moment où vous acceptiez un don d'un prince, eh ben, vous étiez engagé dans un processus irréversible. Pourquoi ? Parce que dans une société du don et du contre-don, telle qu'elle existait et telle qu'elle prévalait à l'établissement de l'État, eh bien, on faisait un don et donc, charge à vous, dans un laps de temps plus ou moins lointain, de rendre ce don. Mais du moment où vous savez qu'un État, avec des moyens tout à fait substantiels, qui vous fait un don que vous n'êtes pas capable de rendre, bien entendu, ça aurait été très compliqué pour le premier parvenu de cuisiner, de faire des plats avec 15 viandes intégrant des dizaines et des dizaines d'épices, qui plus est, qui nécessitaient plusieurs cuissons nécessaires. Donc vous n'étiez pas en mesure, ou bien même quand vous receviez une somme en or tout à fait importante, vous n'étiez pas en mesure de rendre ce don. Et à partir de ce moment-là, eh ben, vous étiez attaché, si je puis dire pour toujours, à l'État, car vous n'êtes pas en mesure, bien entendu, de rendre ce don.
Le souverain est un souverain nourricier, c'est l'expression que vous employez. C'est aussi un souverain vengeur.
Tout à fait, car je crois qu'on ne peut pas comprendre ce processus d'étatisation si on ne fait pas état du fait que cet état, qu'en vérité les Almohades procèdent aussi par l'oppression, par le supplice. Alors j'ai emprunté ce titre-là, l'éclat des supplices, à Michel Foucault dans son Surveiller et punir, car je crois que véritablement le supplice a joué un rôle tout à fait important dans l'économie de pouvoir des Almohades. Pourquoi ? Parce qu'en s'acharnant sur le corps des opposants, en les suppliciant, en les démembrant, je crois que le souverain, se vengeait personnellement sur le corps de ses opposants. C'est-à-dire que plus l'injure avait été grave et le défi lancé, avait fait trembler les assises de cet État, plus la vengeance du souverain était impitoyable. Donc nous avons systématiquement dans ces villes qui pour la première fois se dotent de remparts, d'enceintes, des murs avec des pyramidions, donc des créneaux qui se remplissent du corps des suppliciés, adressant un message clair à l'ensemble de la population. Si vous comptez vous rebeller, eh bien, voici ce qui vous en coûtera, c'est-à-dire la mort et qui plus est, la mort infamante, celle qui vous prive de sépulture et qui expose votre corps à une dégradation progressive qui, jour après jour, marque le triomphe du souverain. Car vous avez un souverain qui, tout en disparaissant de la vue de ses sujets, apparaît avec d'autant plus de majesté, apparaît d'autant plus dans une position hiératique, souveraine, royale, alors même que ses opposants suppliciés apparaissent au jour le jour comme se décomposant petit à petit au fil du temps.
J'ai envie de lire quelques lignes que vous avez écrites, justement, pour prolonger ce que vous venez de nous dire. Vous écrivez « Les califes cherchèrent à ce que l'on reconnût une double aptitude, à ce qu'on leur reconnût une double aptitude, celle d'administrer une mort infamante, soit un paroxysme de violence, et celle de faire advenir sur terre le paradis, ou à minima, une ébauche de paradis. Cette volonté doit être replacée dans le cadre du ressort fondamentalement eschatologique du mouvement almohade. » Il m'a semblé qu'il y avait un mouvement de balancier entre, d'une part, la volonté politique d'attirer la sympathie et le soutien par le biais du merveilleux, et puis de l'autre côté, terroriser, faire peur, effrayer, et effrayer, pas seulement en réprimant et en donnant la mort, mais parfois en injuriant le cadavre. Et cette injure faite au cadavre, j'ai l'impression, si je vous ai bien saisi, que vous suggérez que si l'on s'acharne sur le corps mort, si l'on s'acharne sur le cadavre, c'est parce que le corps du calife est en quelque sorte un surcorps.
Tout à fait. Vous avez, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette double capacité du pouvoir almohade. Je crois que c'est là un aspect tout à fait essentiel de ce pouvoir, car vous avez un pouvoir qui est capable de réaliser un Éden terrestre, qui a cette capacité de réalisation, à travers les prouesses technologiques. Et je profite de l'occasion pour préciser que ce sont les mêmes personnes, les mêmes ingénieurs qui tout à la fois construisent les jardins monumentaux, ceux que l'on peut encore dans une certaine mesure admirer à Marrakech ou à Séville, et les mêmes qui conceptualisent, pour employer un mot franglais, donc qui conceptualisent, si vous voulez, les nouvelles recettes. Ce sont ces personnages-là qui sont en charge de réaliser le merveilleux. Mais à travers, donc d'un côté, vous avez cette capacité à réaliser le merveilleux. Et de l'autre, vous avez quoi ? Vous avez la capacité du pouvoir à administrer une mort infamante et un paroxysme de violence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui est capable d'injurier et de supplicier le corps des opposants. Mais c'est aussi la capacité du pouvoir almohade à déplacer sur de très grandes distances des populations rebelles. C'est-à-dire aussi, par exemple, ça c'est un des lieux communs des chroniques de cette époque-là, dès que vous avez une population qui se soulève, on vous dit qu'elle a été réprimée et exterminée. Bien entendu, quelques pages plus loin, vous apprenez que cette population a continué son histoire. Néanmoins, à travers cette hyperbole, on a voulu signifier, à travers l'écrit, que le pouvoir almohade était en mesure, était en capacité de réprimer et d'exterminer tout mouvement s'opposant à lui, se levant contre lui. Et je crois que c'est là cet aspect du pouvoir tout à fait ambivalent qui en fait un exemple assez remarquable, je crois, de pouvoir préfigurant, je pense, les dynasties européennes contemporaines. Une capacité tout à la fois à réprimer et à réprimer comme jamais, et tout en donnant une image de pouvoir capable de faire advenir le merveilleux. Et quand on dit faire advenir le merveilleux, c'est-à-dire en vérité préparer dans les meilleures conditions possibles le jour du jugement dernier.
Alors l'histoire, ça sert principalement à comprendre le présent. Je me permets, je vais vous faire rougir, je me permets de dire que votre livre ne fournit pas seulement une synthèse, il ouvre des pistes. Il est bien accueilli, vos collègues historiens s'en félicitent, parfois on remarque quelque irritation aussi. Mais il me semble, je connais mal le Maghreb, mais je le connais un peu, il me semble que les hypothèses, les thèses que vous soutenez dans votre livre chahutent un peu ce que les États maghrébins indépendants disent de l'histoire et du passé, et que cette période almohade du Maghreb est une période qui, aujourd'hui, n'est pas forcément bien admise dans le discours, je dirais, dominant des États maghrébins.
Alors, je crois que cela résulte des conditions dans lesquelles s'est constituée l'histoire et l'histoire nationaliste des États maghrébins post-indépendance. Tout d'abord, les personnes en charge d'écrire l'histoire ont toutes été des personnes qui ont été formées à l'école française, républicaine et donc d'inspiration jacobine. C'est-à-dire que le modèle, même s'il n'est pas évoqué en tant que tel, je crois est assez clair. En effet, il est manifeste que cette histoire nationaliste, vous avez un certain nombre de cas, par exemple au Maroc, on pourrait prendre le Menouni ou bien Abdallah Al-Aroui, par exemple, eh bien, son souci premier, c'est de faire en sorte que l'histoire du Maroc, mais aussi de l'Algérie, puisse soutenir la comparaison avec l'histoire française. Alors comment ? Tout d'abord, elle se doit d'avoir une histoire au long cours. Alors, une histoire longue, glorieuse, avec des personnages mythologiques ou des héros dont les peuples nouvellement indépendants puissent s'enorgueillir. C'est-à-dire que du côté français, si vous avez un Vercingétorix, un Charlemagne, un Saint-Louis, et jusqu'à Gambetta, je n'irai pas plus loin pour ne pas faire... Ou Jean Jaurès, par exemple. Bon, je vous laisse...
dans le consensus. Voilà.
Donc je vous laisse à votre appréciation si Vercingétorix était français ou pas, bien sûr. Mais toujours est-il que vous avez exactement la même chose au Maghreb, c'est-à-dire établir une sorte de continuum de l'époque antique jusqu'à l'époque contemporaine.
Par exemple, au Maroc, oui. Vous me corrigez hein, si je m'égare. Il me semble, j'ai entendu, quand je suis allé dans votre pays, j'ai entendu que le début du Maroc, c'était du côté des Idrissides. Il y avait un point de repère, il y avait quelque chose. Et il me semble que vos travaux remettent un peu la chose en question.
Vous voulez me créer des problèmes, Jean-Michel ?
Non, pas du tout.
Non, mais écoutez, je vais vous donner un exemple simple. J'espère qu'il sera édifiant. On m'a fait l'honneur récemment de m'occuper de l'exposition temporaire qui s'est tenue au Louvre sur le Maroc médiéval d'octobre à janvier dernier. Or, mais donc on partait d'une culture matérielle, de ce que le passé nous a légué. Bien. Or, on comptait faire débuter cette histoire à partir des 10e, 11e siècles, et bien entendu, à plus de 90%, c'est-à-dire pour l'essentiel, ce que nous allions exposer étaient des objets datant de les époques des empires berbères, c'est-à-dire à partir des 12e, 13e, 14e siècles. Or, le pouvoir marocain nous a imposé, par pression, de consacrer une salle aux Idrissides, c'est-à-dire à cette dynastie d'origine donc orientale, hein, et chérifienne, c'est-à-dire descendante du prophète, qui régnait, qui aurait régné, je vais préciser ma pensée, au 8e, 9e, 10e siècle. Or, qu'est-ce qu'on constate? Vous avez donc des salles, la première salle idrisside, où vous avez quelques lampes en huile et 2-3 monnaies, et les autres salles, vous avez tout un sorte d'objets tout à fait monumentaux, des codex, des chaires de mosquées, des drapeaux et toutes sortes d'objets. Donc vous pouvez vous apercevoir de visu, je crois que ça saute aux yeux, hein, n'est-ce pas, qu'en vérité, les Idrissides n'ont pas réellement constitué un État. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, si on prend des critères absolument, je crois, sérieux pour définir ce qu'est l'État, c'est-à-dire la capacité à marquer la société, à imposer des modes. Par exemple, les modes culinaires, je pense aujourd'hui, je vais encore verser dans le continuum, c'est-à-dire dans ce qu'est le péché des historiens. Eh bien, si vous avez une prégnance du sucré-salé dans la cuisine marocaine, je pense que ça résulte très largement de ce leg almohad, c'est-à-dire de cette cuisine royale qui visait, qui ambitionnait de surprendre gustativement en créant un effet merveilleux, c'est-à-dire vous n'avez pas dans la bouche ce que vous pensiez avoir quand vous l'aviez vu. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un État qui n'en est pas un en vérité, car elle n'a jamais imprégné sa marque. Elle n'a jamais eu non plus véritablement de courtisans, de personnes gravitant dans les arcanes du pouvoir capables d'écrire son histoire. L'histoire idrisside, elle est écrite pour l'essentiel au XIVe siècle, c'est-à-dire des siècles et des siècles après la fin de cette dynastie.
Est-ce que ça voudrait dire peut-être, hein, mon rôle est d'être le candide, lorsque cette partie du Maghreb, qui est aujourd'hui le Maroc, est coincée entre d'un côté le Portugal et puis les Ottomans, et que l'on va chercher une dynastie chérifienne, est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, la place qu'on accorde aux Idrissides, c'est pour en quelque sorte reconstituer une continuité historique et faire en sorte que, par exemple, la dynastie almohade n'apparaisse que comme une parenthèse dans cette continuité?
Alors, parenthèse, pas vraiment. Car le paradoxe, et non des moindres, c'est que ce passé almohade était au 19e et début du 20e siècle, c'est-à-dire juste avant le protectorat au Maroc, pratiquement oublié au Maroc. Hein. C'était à peine si on en avait encore conscience, notamment dans le sud, hein, le sud du Maroc, ayant gardé un certain et réactivé une certaine forme de passé almohade, hein, notamment en continuant de dispenser l'enseignement des bases des sciences religieuses musulmanes en berbère. Bien. Ce sont les Français les premiers à s'être intéressés à l'histoire almohade. Notamment, l'auteur de la première monographie consacrée aux almohades, René Millet, a été résident général en Tunisie. Et son livre a été préfacé par Lyoté. Bien. Ensuite, des années 20, vous avez les formes architectoniques de ce qu'on appelle l'architecture hispano-mauresque, qui s'inspire sciemment de l'architecture almohade. Alors, je crois que les ambitions du pouvoir du protectorat étaient, des autorités du protectorat, étaient, si vous voulez, d'adresser un message aux Maghrébins. À savoir que dans une conception cyclique du temps, qui était la leur, vous avez su dans le passé être brillant, grand. Hein. Il ne tient qu'à vous, en créant une forme de partenariat privilégié avec la France, hein, en vérité, en acceptant une certaine forme de tutelle française, eh bien, de redevenir grand et glorieux. Je crois que nous avons une forme d'incubation comme ça de 30-40 ans, jusqu'à la première monographie consacrée aux almohades, et ce n'est pas, je crois, inintéressant de constater que la personne qui l'a rédigée était non pas un historien de formation, mais un proche conseiller du sultan Mohamed V, en pleine période de lutte pour l'indépendance. C'est-à-dire que l'idée, c'est que désormais, la grandeur, on sait qu'elle a été à cette époque-là. Hein, c'est-à-dire la grandeur, c'est-à-dire pouvoir affronter victorieusement les puissances chrétiennes du Nord. Hein, c'était ça, c'est ça le message qu'on voulait adresser aux autorités du protectorat et à l'opinion publique arabe en général. Aujourd'hui, le passé almohade apparaît comme un passé archétypal. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, quand les Marocains ont voulu faire une sorte de remake des visiteurs, ils ont pensé aux Almohades. Pour faire bien entendu, il n'y a aucun forme de fondement historique à ce film. Bien. Mais néanmoins, il est intéressant de constater que désormais, le passé archétypal médiéval, il est almohade avant tout. Et c'est, donc, je pense que ça s'est passé par une médiation française. Ensuite, aujourd'hui, le passé almohade, il est réutilisé, instrumentalisé, parce que le fondateur du mouvement almohade, Emmett Umert, a été avant tout un censeur des mœurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a prêché un islam rigoriste et qui a considéré que tous les autres musulmans, n'adhérant pas à son credo, n'étaient pas des musulmans. Et ça, je crois que ça a intéressé tout à la fois les mouvements djihadistes, notamment en Irak, qui citent souvent son nom. Si vous tapez « Mouahidoun » en arabe sur YouTube, c'est généralement des prêches de cet ordre-là qui apparaissent. De même au Maroc, quand vous avez une volonté d'inscrire le pouvoir dans une forme de conservatisme musulman, bien souvent c'est son nom qui est cité. C'est-à-dire qu'on prend, on appréhende ce passé que sous un certain angle, à savoir celui du rigorisme et du conservatisme musulman, et non pas celui du projet d'une indépendance totale vis-à-vis de l'Orient et du Nord, d'Al-Andalus. Bien. C'est-à-dire un projet qui visait en vérité à établir les bases d'un État centré au Maghreb, réalisé par des Maghrébins, encore une fois, en totale indépendance culturelle et civilisationnelle et politique, et donc par extension militaire, vis-à-vis de l'Orient.
Mehdi, vous êtes un historien avec une grande culture littéraire. Je suis un littéraire avec une petite culture historique. Mais cela suffisante pour dialoguer avec vous. Et j'ai envie de consacrer les dernières minutes de notre entretien, non pas à un rêve, mais à des projections libres. Il me semble que votre invitation à réfléchir sur la dynastie almohade, je l'interprète pour ma part de la manière suivante. C'est que c'est une façon pour vous de nous dire que un islam occidental est possible, il peut être grand, et il peut être grand parce qu'il peut s'étendre sur les deux rives de la Méditerranée. Et que, à bien des égards, ces formes d'organisation, ces formes de réalisation ne se distinguent pas de ce que l'on peut observer au nord de la Méditerranée. Pour ma part, je dirais qu'il y a des textes littéraires qui nous incitent à aller dans ce sens. À bien des égards, il me semble que récemment, un écrivain contemporain français, réfléchissant sur la chanson de Roland, nous incite à dire ceci, c'est que la chrétienté et l'islam se sont pensés dans une position spéculaire, dans la mesure où l'on se construit dans l'image, non pas de l'autre, non pas dans l'image que l'autre nous renvoie, mais qu'à bien des égards, cette image, c'est sa propre image. Il suffit de lire la chanson de Roland. Qu'est-ce qui distingue les chevaliers sarrasins des chevaliers chrétiens? Rien, si ce n'est leur dénomination. C'est tout, mais ce sont les mêmes. Alors, dans la période, là, au début de l'année, un auteur que nous considérons, vous et moi, comme important, Michel Houellebecq, vient de publier un roman, Soumission, où il est question de l'islam, et il énonce un certain nombre de choses, du moins, je me corrige, ses personnages énoncent un certain nombre de choses, notamment l'idée que l'avenir de l'Union européenne passe par, je dirais, une réorientation culturelle et géographique de l'Union européenne vers le sud. Les personnages de Houellebecq envisagent la possibilité que la Turquie, le Maroc, le Maghreb tout entier adhèrent à l'Union européenne et, en quelque sorte, ce nouvel ensemble constitue une actualisation de Mare Nostrum, de notre mer. Et je me souviens, quand j'étais enfant, que nous apprenions l'histoire du monde. Ben, l'histoire du monde commençait en Égypte, ensuite on passait en Mésopotamie, ensuite on allait en Grèce, ensuite on allait à Rome. Et c'est ainsi qu'on apprenait l'histoire du monde. C'est-à-dire, fondamentalement, on induisait que l'histoire du monde s'était jouée autour des rives de la mer Méditerranée. Alors il me semble, et j'aimerais connaître votre avis, vos travaux, qui sont des travaux extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux, ils ont une portée, ils vont inciter vos lecteurs, vos étudiants, ils sont nombreux dans la salle ce soir, à rêver aussi. Est-ce que vous ne leur dites pas que l'avenir, un avenir terrestre, ça passe tout simplement par le fait que, de part et d'autre de la Méditerranée, l'on vive, l'on travaille et l'on rêve ensemble?
Très certainement, mais avant toute chose, permettez-moi de dire et de préciser que je suis historien, donc il m'appartient surtout de prédire le passé, comme vous l'aurez bien remarqué. Mais cependant, après la lecture de l'ouvrage de Houellebecq, hein, son dernier ouvrage, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, il me semble que c'est une sorte de reprise d'un rêve gaulien, d'une Europe qui aurait une extension sur le pourtour méditerranéen et en particulier sur le pourtour méridional de la Méditerranée. Néanmoins, je crois que ça apparaît un petit peu dans l'introduction de mon ouvrage. Mon postulat de départ, si vous voulez, était le suivant. Je déplorais le fait que l'histoire du Maghreb ait été le parent pauvre non seulement des études historiques à l'université, mais également le parent pauvre des études musulmanes tout court. C'est-à-dire que je crois que les études consacrées à l'Égypte, à la Syrie, etc., ont eu un poids bien plus significatif. Alors, je le déplorais, non pas tellement parce que c'est mon domaine de recherche, certes, hein, ça rentre en ligne de mire, naturellement, mais également parce que, bien sûr, il existe, et je crois que c'est là la singularité de la France, par rapport à tous les autres peuples européens, une communauté de destin entre le Maghreb et la France. Et en regardant cette assemblée, je crois qu'on peut le constater de visu. C'est-à-dire que, évidemment, l'avenir passe par une collaboration et un approfondissement des relations. J'espère que, en écrivant ce livre et en essayant d'éclairer un pan injustement déconsidéré de l'histoire du Maghreb, j'espère avoir œuvré un petit peu dans ce sens. Alors, une communauté de destin, dans quelle modalité? Bien sûr, il ne m'appartient pas de le définir. Juste, j'ai parfaitement conscience de la responsabilité qui est la mienne en tant qu'universitaire et en tant que personne chargée de former des étudiants. Donc, je pense que pour l'instant, ma pierre à l'édifice ne peut être que éclairer ce pan du passé pour essayer de l'avant, essayer de voir, de définir et de déterminer quels ont été les parts, les aspects de confrontation, car il ne faut pas se voiler la face, il s'agit d'une histoire aussi heurtée, extrêmement heurtée, mais aussi une histoire de mélange, d'interaction. N'oubliez pas que c'est à partir de cette époque-là, déjà, pour la première fois dans l'histoire de l'islam tout court, au Maghreb, que l'on signe des accords de coopération, notamment entre le pouvoir almoravide et Pise, et ensuite Gênes, et ensuite Venise, et ensuite Marseille, et ensuite les Baléares, etc., etc. Donc vous avez déjà une histoire au long cours de collaboration et d'alliance. J'ai moi-même écrit un petit article sur les modalités de l'alliance entre les Almohades et les Léonais. Los Neones, c'est-à-dire l'État du Léon en Espagne. Donc c'est-à-dire que cette histoire, elle n'a pas, si on va au-delà d'une vision intictonienne, c'est-à-dire celle d'un affrontement de civilisation, elle a été aussi faite d'échanges et de ruptures. Bien, pour terminer sur une métaphore culinaire, hein, vous aurez bien compris que telle est mon obsession, eh bien, je dirais que si on retrouve le couscous dans l'œuvre de Rabelais, eh bien, quelque part, c'est un petit peu la faute des Almohades, bien, indirectement. Car, bien entendu, c'est en imposant leur pouvoir en Al-Andalus, hein, à partir du XIIe siècle, que l'on trouve dans le matériel fouillé, des couscoussiers, et que le couscous a été acclimaté en Espagne et en Espagne du Nord, et que les pâtes berbères ont fait une entrée fracassante, si je puis dire, jusqu'à devenir aujourd'hui, si je ne m'abuse, le plat préféré des Français, n'est-ce pas ?
Écoutez, en votre nom à tous, je tiens à remercier vivement Mehdi Guergat. Merci, merci Mehdi.